gratuit.
Les titres du journal.
Le décollage de la fusée Ariane 6 jeudi dernier depuis la Guyane française a aussi mis en lumière un savoir-faire chablaisien. À Aigle, APCO Technologies SA a fabriqué des pièces essentielles des boosters, des composants de haute précision dont dépend la réussite de la mission. Le parc naturel régional de la vallée du Trien inaugure sa 5e Grénothèque et annonce que toutes celles du Bas-Valais travaillent désormais en réseau. Et en hockey sur glace, le HC Châteaudet visait le haut du classement. Il est désormais en finale de play-off de son groupe en 2e ligue. La formation du Pays d'en haut affrontera le HC Bulle La Gruyère dès dimanche.
Et pour ce qui est de la météo, le temps sera très nuageux avec de la neige prévue cet après-midi des 1000 mètres d'altitude avec une petite probabilité d'éclaircie. Météo complète en fin de journal. Le journal qui vous est présenté par Anthony Dacampo. Bonjour Anthony.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Même si la situation tend à s'améliorer, les accès sont toujours perturbés aujourd'hui en Valais, notamment dans la région de Goppenstein, où la ligne ferroviaire est toujours interrompue. Certains accès, notamment routiers à Arola et Zinal, ont toutefois pu être rétablis. Sur le front des avalanches, la situation reste tendue sur l'ensemble du canton, avec un danger jugé très fort.
Trois adolescents à ski se sont retrouvés bloqués hier au sommet d'une falaise de 40 mètres à Villars-sur-Olon.
Évoluant en dehors des pistes balisées, ils ont été surpris par une importante accumulation de neige poudreuse, les empêchant de remonter la pente. Leur progression les a conduits au bord d'une barre rocheuse où ils se sont retrouvés immobilisés. Malgré un danger d'avalanche marqué, trois sauveteurs de la Réga ont pu rejoindre les jeunes et les sécuriser avant une évacuation.
Le dernier lancement d'Ariane 6, jeudi passé en Guyane française, a mis aussi en lumière un savoir-faire chablaisien.
L'entreprise APCO Technologies, basée à Aigle, a participé à la fabrication d'éléments clés des boosters de la fusée, qui a mis en orbite une dizaine de satellites, des pièces critiques qui, en cas de défaillance, pourraient compromettre l'ensemble de la mission spatiale. Mais concrètement, à quoi servent ces équipements conçus à Aigle et quel rôle jouent-ils au moment du décollage? Le directeur de la division spatiale d'APCO Technologies nous apporte quelques éléments de réponse.
On a deux rôles. On a un rôle sur tout ce qu'on appelle les moyens sols, c'est-à-dire tout ce qui permet d'assembler et de transporter les différents étages de la fusée jusqu'au pas de tir. Ça, c'est le premier rôle. Et le deuxième rôle, c'est qu'effectivement, nous sommes en charge de la partie haute et de la partie basse des boosters pour chaque lancement d'Ariane 6. Nos équipements, la partie haute et la partie basse des boosters, sont extrêmement chargés. C'est en fait les parties les plus chargées du lanceur. Et ce sont en plus des équipements qui sont ultra critique et qui doit être très très fiable.
Dans un domaine où l'erreur n'a pas sa place, Didier Manzoni est revenu sur le processus qui doit permettre d'assurer la plus grande fiabilité des pièces fabriquées.
Tout commence en fait par la phase de développement, c'est-à-dire qu'on a une phase qui dure assez longtemps, hein, plusieurs années, où on fait les calculs, la conception, des essais pour s'assurer qu'effectivement tout fonctionne parfaitement bien avant même d'avoir fait un réel vol. Et puis après, il y a la partie réalisation, la fabrication elle-même. Et là, on doit contrôler les tolérances des différentes pièces, s'assurer qu'elles sont dans les fourchettes que l'on a agréées avec notre client durant la phase de développement. Et là, évidemment, on a conçu une usine qui remplit cette mission-là, une usine ce qu'on appelle 4.0 ou sans papier, où toutes les données, toutes les tolérances sont récoltées, analysées, où des valeurs statistiques en sont tirées.
La société basée à Aigle fait donc partie des partenaires importants pour le programme Ariane 6, un programme qui prévoit près de 10 lancers par an. Un sujet signé Ludovic Turin.
Le parc naturel régional de la vallée du Trien inaugure le 5 mars sa 5e Grénothèque.
À Salvan, la bibliothèque communale proposera aux habitants des graines pour leur potager. L'objectif est de permettre aux citoyens de se procurer en semis de la région et adapté au climat de la vallée. Adrien Favre, co-directeur du parc naturel régional, explique que le but est également d'aider les gens à récolter les graines en automne pour fournir à nouveau les stocks des Grénothèques.
Bon, on peut pas parler de chaque espèce et chaque variété parce qu'il y en a tellement. Et chaque espèce de plante a des graines différentes qu'on doit collecter de manière sensiblement différente. Mais on essaye d'avoir les grandes lignes pour les espèces les plus fréquentes. Donc par exemple les tomates, pour lesquelles il y a un processus relativement complexe pour pouvoir récolter, sécher et conserver les graines.
Toutes les grénothèques du Bas-Valais travaillent désormais en réseau afin d'échanger astuces et graines. On retrouve Adrien Favre.
L'idée de base, c'était d'avoir plusieurs grénothèques en réseau pour qu'elles puissent échanger des graines, qu'elles puissent échanger de l'information, etc., etc. Peut-être organiser des événements communs. Et puis, ben, ça a été proposé par la Grénothèque du Châble-Verbier de se mettre en réseau au niveau bavalaisan. Et donc, on a eu la première réunion des Grénothèques du Bavalais à Saint-Maurice, à la médiathèque, où se trouve une de nos Grénothèques, avec des Grénothèques, par exemple, de Vionnat, de Ride, de Châble, et puis, bon, ben, des Grénothèques du Parc naturel régional aussi.
Des propos recueillis par Valérie Favre. 4 autres grénothèques existent dans le parc, à Martignybourg, à Finhaut, à Trien et à Saint-Maurice. Accueil mitigé pour la nouvelle loi qui veut réglementer les géants du web. La consultation du projet du Conseil fédéral s'est terminée cette semaine. Le texte exige davantage de transparence des plateformes de communication et moteurs de recherche. Facebook, TikTok et compagnie devront aussi permettre à leurs utilisateurs de notifier les contenus problématiques ou de déposer des réclamations. La nouvelle loi vise un environnement en ligne plus sûr et plus fiable, mais elle suscite des critiques de tous bords. Le Conseil fédéral va maintenant étudier le résultat de la consultation et adapter son projet à l'intention du Parlement.
Un couple a été arrêté ce matin dans le cadre de l'enquête sur le lynchage et la mort du jeune militant de droite Quentin Deranque.
Ceci porte à 11 le nombre de personnes en garde à vue dans ce dossier. Parmi eux figure un assistant parlementaire d'un député de la France Insoumise. Pour rappel, Quentin Deranque, 23 ans, a été frappé à mort jeudi soir par un groupe de personnes cagoulées en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan. En ski alpin, elle était annoncée comme la favorite et elle n'a pas déçu. Michaela Schifrin a largement dominé la première manche du slalom olympique ce matin à Cortina. L'américaine compte plus de 8 dixièmes d'avance. Derrière elle, tout est très serré. Notre envoyé spécial à Cortina, Valentin Danzy.
Si elle ne craque pas, Michaela Schifrin sera sacrée championne olympique de slalom. Celle qui domine le ski mondial depuis plusieurs années n'a plus gagné de médaille au JO depuis 2018 à Pyeongchang. Comme vous l'avez dit, on va se battre surtout pour les médailles d'argent et de bronze. Il n'y a que 5 dixièmes de différence entre la deuxième place de l'Allemande Lena Dürr, qui craque souvent en deuxième manche, et la huitième de sa compatriote Emma Eicher. Camille Rast et Wendy Holdener sont dans le paquet, comme on dit. La Valaisanne est quatrième et la Suissoise cinquième. Mélanie Meillard, 14e, et Eliane Christian, 22e, sont plus loin et se battront pour des places d'honneur. La question est de savoir maintenant comment la piste va tenir, car le soleil tape ici depuis ce matin. Si le mercure était négatif tout à l'heure, les températures seront positives cet après-midi quand les meilleurs s'élanceront.
Et le départ de la deuxième manche sera donné tout à l'heure à 13h30.
En hockey sur glace, le HC Châteaudet est prêt à entrer dans la finale de play-off de son groupe de deuxième ligue.
Les joueurs du Pays d'en Haut croiseront le fer avec le HC Bulle-la-Gruyère dès dimanche, dans un derby qui s'annonce disputé. Si les Fribourgeois ont largement dominé la saison régulière, les Damounais sont eux invaincus en play-off, après avoir éliminé Crans-Montana puis Villars. Le capitaine de Châteaudet, Jean-Michel Anchaud, indique être prêt au combat.
C'est évident qu'ils ont actuellement dominé le championnat de deuxième ligue. Ils ont une belle équipe bien construite, devant, derrière. Ils ont des forces qui sont bien réparties. Ils ont un bon gardien. Donc c'est vraiment un magnifique derby qui nous attend. C'est clair qu'avec Bulle, chaque année, soit tu as une équipe qui est plus en forme que l'autre. Donc ça peut tourner d'un côté ou de l'autre. On voit que cette année, ils ont vraiment une grosse équipe. Donc ça nous fait un beau challenge. On est vraiment impatients de pouvoir le relever en fin de semaine.
Justement, relever ce challenge, ce serait remporter la finale. Est-ce que vous avez cet objectif-là? Comment est-ce que vous allez l'aborder, cette série?
C'est clair qu'une finale, bah, tu la joues pas pour la perdre, tu la joues pour la gagner. Donc c'est sûr et certain que nous, on s'est motivés, on s'est mis dans la tête qu'on peut y arriver. On va tout faire pour gagner cette finale. Maintenant, en 3 matchs, je pense que ça va être très compliqué, mais tout peut arriver. Et puis à partir de dimanche, bah, on donne rendez-vous sur la glace.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. La finale de play-off du groupe 6 de deuxième ligue entre Châteaudet et Bulle-la-Gruyère débutera dimanche à 17h sur la glace des Fribourgeois.
Radio Chablais, spéciale élection.
À l'approche des élections communales vaudoises de mars, Radio Chablais vous propose chaque jour un arrêt sur image dans une commune de la région. Place ce midi à la commune de Réna avec Guillaume Abbé.
Arena, première information sur les 5 sortants de la municipalité. 4 se représentent. Seule la syndic, Muriel Ferrara, ne prend pas le départ de cette campagne. Les 4 actuellement en fonction et qui souhaitent rempiler figurent sur une liste, l'entente Réna. Une deuxième liste a fait son apparition dans le délai pour le dépôt fixé au 12 janvier 2026 à midi. Son nom, pour Rena. Une seule candidate, Sarah Bornet, qui siège non pas à la municipalité, mais au Conseil général durant la législature en cours. Des bruits de couloir font part d'un petit malentendu lors de ce dépôt de liste. Les cinq candidats devant au départ être présents sur une seule liste fermée et à cinq. Bref, passons sur ce curieux et inhabituel fait de campagne. À Rena, on ne cherche pas tant le combat politique et partisan, mais on vise plutôt le pragmatisme, le dynamisme et la cohésion. Dans la bourgade de tout juste pas 1000 habitants, on identifie un premier enjeu actuel et qui enjambe les législatures, le plan d'aménagement communal et la coordination scrupuleuse des impacts de celui-ci, à commencer par la place du village. Il faudra veiller également au maintien de la qualité des services communaux, le développement de la zone au nord de la commune, qui comprend entre autres la HRC et des centres commerciaux. C'est aussi à cet endroit que seront construits la future déchetterie communale et le bâtiment de la voirie. Enfin, pour Rena, il faut faudra continuer à dialoguer avec les communes avoisinantes avec lesquelles des collaborations existent, puisqu'elle fait partie intégrante de l'agglomération Rivelac. Candidate comme candidat relève l'importance de faire perdurer l'esprit villageois et de favoriser le soutien actif aux sociétés communales.
C'était un papier proposé par Guillaume Abbé.
L'actu en continu, radiochablais.ca.